Déjà le 3 décembre. Wow! Le temps passe tellement rapidement et tout ça. Et on veut vous remercier aussi pour vos prières pour durant ce temps-ci pour notre famille, pour mon épouse qui, sa maman qui a gradué dans l'éternité. Et simplement, on apprécie. C'est vraiment, on peut ressentir les prières. Tania va bien. Simplement, elle se sent soutenue par le Seigneur au travers de ce temps-là. Elle est justement en Georgie, à Lawrenceville, 40 minutes d'Atlanta. Ça fait que si le Seigneur vous rappelle simplement, cette fin de semaine, on va avoir les funérailles. Si le Seigneur vous met à cœur de prier, simplement, juste obéissez. Amen. Parce qu'on va avoir les temps de funérailles. Vous savez, des fois, c'est des temps un peu plus difficiles pour la famille et tout ça. Et j'ai l'opportunité et l'honneur de faire les funérailles pour ma belle-maman. Ça fait qu'on va être là, moi et Samuel. On va décoller mercredi et on va se rendre là-bas. Et simplement, on croit que le Seigneur veut faire des choses au travers de la famille. Il va y avoir plusieurs membres de famille qui viennent. Il y en a qui viennent d'Angleterre, il y en a qui viennent de la Jamaïque, il y en a qui viennent de différents endroits. Et il y a des membres de famille qui ne connaissent pas le Seigneur encore et on prie qu'au travers ça, que le message, l'espoir, la bonne nouvelle puisse être apporté et qu'il y ait des choix qui puissent se faire pour le Seigneur. Ça fait qu'on puisse garder ça en prière. Ça serait vraiment apprécié. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur est fidèle. Vraiment, il prend soin de nous. Et ce matin, encore une fois, merci pour l'opportunité que nous de pouvoir être ici, de pouvoir apporter la parole. On est des frères et des sœurs ensemble. Amen. C'est ça la beauté du corps de Christ, simplement, que la famille de Dieu est pas mal grande, pas mal plus grand qu'on pense souvent. C'est pas mal plus grand que nos régions. C'est parfois, quand on voyage, tu rencontres d'autres frères, d'autres sœurs, des personnes que tu n'as jamais vues ta vie, et soudainement, ils te disent dans une conversation qu'ils sont enfants de Dieu. C'est comme qu'une connexion qui se fait, c'est comme tu ne peux pas décrire, mais c'est juste le fait que c'est la famille de Dieu, des frères et des sœurs au travers le monde. Et merci Seigneur que c'est comme ça, que lorsqu'un jour qu'on va entrer dans l'éternité, on va voir simplement que des gens de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, qu'on va être là ensemble simplement pour louer notre Dieu, alléluia, et pour l'adorer. Et comme Jean a dit, qui a vu une multitude, qui est une grande foule, c'est plus grand que la ville d'Edmundston, alléluia, c'est une grande foule qui est là, un peuple qui loue son Dieu à l'agneau de Dieu, soit la gloire, alléluia. Et c'est, en anglais on dit, I'm looking forward for this. Je regarde avec anticipation pour cela, simplement, qu'un jour on va être là, et je le redis, ici-bas, c'est pas notre vraie adresse. Notre vraie adresse, c'est là-bas en haut avec mon Dieu, dans la maison qu'il nous a préparée. Alléluia pour chacun d'entre nous, pour l'enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, simplement, j'aimerais prendre le temps ensemble juste de regarder quelque chose qui est sur mon cœur, mais je crois qu'il peut nous aider à aller plus loin. J'aimerais juste qu'on prenne un temps juste dans la prière, juste quelques instants. Seigneur, on te remercie pour la beauté du peuple de Dieu. On te remercie, Seigneur, pour tes grâces, Seigneur. On te remercie, Seigneur, qu'on vient, par rapport au Life Reach, on vient de terminer un 30 jours de prière, Seigneur. Et Seigneur, tes fidélités sont toujours présentes au rendez-vous. Et Seigneur, que ce soit une seconde dans la prière, que ce soit une minute dans la prière, que ce soit X nombre de jours, on voit ta fidélité, Seigneur, lorsqu'on se tourne vers toi, Seigneur. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Alléluia. Tu délivres, Seigneur, de nos détresses. Tu délivres, Seigneur, de nos situations. Et Seigneur, on prie ce matin, Seigneur, dans ce lieu, pour ta présence. On prie ce matin que tu puisses toucher nos cœurs. Alors, on prie ce matin, Seigneur, que tu puisses simplement nous rencontrer à l'endroit où ce que nous sommes dans notre marche avec toi. On prie, Seigneur, pour chaque personne qui sont présents au rendez-vous ou peut-être ceux qui vont écouter via audio, Seigneur, pendant la journée, pendant les jours, les semaines qui s'en viennent. On prie que tu puisses rencontrer, toucher, Seigneur, d'une façon spéciale. Seigneur Jésus, ta parole nous dit qu'on marche de gloire en gloire. Oui, être changé à l'image de Jésus-Christ. On progresse en tant qu'enfant de Dieu. On veut aller plus loin, Seigneur. On veut aller plus creux, Seigneur. On veut s'élargir. On veut gagner du territoire en toi. Seigneur, expérimenter les choses de Dieu. On veut pas être à la même place qu'on était peut-être des années passées, Seigneur. Mais Seigneur, on veut grandir en toi. L'enfant de Dieu, nous sommes appelés à grandir. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses nous aider, élargir nos cœurs, élargir notre esprit, élargir nos pensées ce matin. Seigneur, stretch-nous, Seigneur, ce qu'on pourrait dire, qu'il puisse y avoir de la place, Seigneur. Seigneur, je te prie par ton Saint-Esprit ce matin, que tu puisses parler à nos cœurs au travers de ta parole. Seigneur, ta parole qui est vivante, qu'elle est comme une épée à double tranchant, qui pénètre jointure et moelle, Seigneur, qui donne la vie, Seigneur. Seigneur, on prie ce matin simplement que tu puisses rencontrer celui ou celle qui peut passer au travers des temps difficiles, des temps d'épreuve, ou peut-être celui qui est dans la victoire ce matin, que tu puisses, Seigneur, le fortifier aussi, que tu puisses rencontrer. Seigneur, on te remercie d'avance, Seigneur. Je te prie pour une huile fraîche ce matin sur chacun d'entre nous, Seigneur. On sait souvent, Seigneur, que dans le mois de décembre, on est occupé à toutes sortes de choses, les gens se préparent pour les fêtes, mais Seigneur, qu'on puisse se préparer, nous, en tant que peuple de Dieu, se préparer constamment pour la présence de Dieu. Se préparer constamment pour vivre, marcher avec toi, Seigneur. Les gens, Seigneur, dans le monde se préparent, Seigneur, même pour Noël qui s'en vient, se préparent pour les choses. Et les gens sont stressés, anxieux et toutes ces choses, Seigneur, parce qu'on veut se préparer et tout ça. Mais Seigneur, je te prie pour que l'enfant de Dieu, nous, qu'on puisse se préparer, pas nécessairement pour une fête, mais qu'on puisse se préparer pour la présence de Jésus à tous les jours, Seigneur. Et au travers de ce temps, Seigneur, on veut se rappeler qui tu es. On veut se rappeler que tu es venu dans ce monde, que tu es venu simplement pour donner la paix, Seigneur. Tu es le prince de paix, Seigneur. Et je te remercie ce matin que ta paix puisse reposer sur chacun d'entre nous, Seigneur, dans le nom de Jésus éternel. Amen, amen et amen. Hallelujah. C'est que je pourrais donner un titre ce matin à ce message. Ça serait « Il y a des murs qui doivent tomber si on veut aller plus loin. » Il y a des murs qui doivent tomber si on veut aller plus loin. Voyez-vous simplement, si que je m'en vais et je m'en vais tout droit, je vais rencontrer un mur. Et si je m'en vais dans cette direction-là, puis je continue simplement, je vais rencontrer un mur, je m'en vais vers là, je rencontre un mur. On a souvent entendu des expressions simplement, « Ah, il vient de fesser un mur. » Hein? Des fois, c'est comme, ou même qu'on voit simplement, il y a l'épreuve, il y a quelque chose qui est arrivé, une situation, puis on va utiliser ce terme-là, il vient fresser un mur, il vient juste, puis c'est comme, puis tant qu'on utilise cette expression-là, c'est comme, OK, on est bloqué, on ne peut pas aller plus loin, il y a quelque chose simplement qui vient d'arriver, quelle que soit la situation. Des murs, ça délimite un certain territoire. Ça délimite un certain territoire. Les murs de votre maison déterminent que c'est ça votre demeure et c'est là que normalement tu couches à l'intérieur des murs. Tu vas demeurer là, c'est ta place. Les murs qu'on a, les murs invisibles parfois qu'on a dans un territoire, lorsque tu es dans la région d'Edmundston, et là tu traverses, disons, les lignes, où tu arrives à Saint-Jacques, tu traverses les lignes du Québec, c'est comme, il y a comme des murs invisibles qui sont là, qui viennent de dire que tu viens de changer de territoire, que tu viens de changer d'endroit, que tu viens de changer de place. Mais il y a des murs qui doivent tomber si je veux aller plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Parfois, simplement, il y a des murs au travers de la vie, au travers des situations, des choses dans quand on était tout petit, des choses en grandissant qui arrivent dans, au travers des relations, des événements, des choses qui ont laissé une marque dans nos vies. C'est comme s'il y a un mur qui s'est élevé là. Je me souviens un jour qu'on était aux États-Unis avec une sœur, on était dans une réunion de prière, et c'est une sœur qui aimait le Seigneur, a dit, pour la première fois de ma vie, c'est comme s'il y a des murs qui ont tombé, pour la première fois de ma vie, je me sens libre finalement. Puis ça fait une sœur qui était dans une assemblée pendant des années et des années et des années, et c'était un événement qui était arrivé dans son enfance. Elle, c'est la première fois, elle, je ne l'avais jamais partagé à personne. Puis cette soirée-là, c'est comme il y a des murs qui ont tombé. Comme ils savent que si on veut aller plus loin, il y a des murs qui doivent tomber dans ma vie, dans vos vies, dans nos vies ensemble, afin qu'on puisse aller à la prochaine étape, si je veux aller plus loin. Et je prie ce matin, c'est ma prière vraiment, qu'il y ait des murs qui tombent. Des murs qui tombent parmi le peuple de Dieu, des murs qui tombent personnellement dans nos vies, parce qu'on n'aime pas frapper un mur. Parfois, ça fait mal. Quand tu frappes un mur, c'est assez un arrêt brusque, on pourrait dire. Surtout si tu es habitué d'aller assez rapidement dans la vie, puis tout d'un coup, il arrive une situation, puis là, tu frappes le mur. Des murs, ça, c'est souvent, c'est ce qui est entre ces murs-là, souvent, ça m'appartient, ou qu'on pense que ça nous appartient. Voyez-vous, les Hébreux dans l'Ancien Testament, pendant 400 ans, avaient été sous la domination des Égyptiens et qui étaient entre les quatre murs de l'Égypte. Comme ils savent que c'est 400 ans, c'est pas mal long à être entre quatre murs. Puis, il n'y a pas de passeport pour aller l'autre bord. Là. C'est long à dire. Tu ne peux pas dire, je vais aller chercher mon lait sur le côté américain. Je ne peux plus traverser. C'est pas mal long, 400 ans, là, d'être vraiment bloqué. Et même, quand tu parles de blocage, on a vécu au travers de la COVID et tout ça, des limites, des limitations, des murs, ce qu'on pourrait dire, qui nous empêchaient de faire certaines choses. Parfois, on ne pouvait pas aller l'autre bord et tout ça. Ça nous a duré peut-être 2-3 ans. Et on a trouvé ça assez dur. Mais imaginez 400 ans. 400 ans que t'es pris dans des murs qui sont là, des murs même dans leurs pensées. Combien savent que si tu demeures assez longtemps dans un endroit, que même des murs qui commencent à s'élever dans tes pensées, des murs qui s'érigent parce que t'es dans cette façon de raisonner. Et souvent, tu vas prendre des enfants, des personnes, des fois même qui se font kidnapper, exemple, puis ils demeurent 20 ans dans un sous-sol en cause. Et c'est terrible. C'est lorsqu'on voit ça aux nouvelles, on est tous épouvantés, on est tous. On dit, ça se peut-tu que ça existe dans notre monde? Et bien sûr, ça existe. Et des jeunes qui sont là pendant 20 ans, qui n'ont jamais vu le jour, ils n'ont jamais vu entre quatre murs. Et même lorsqu'ils sortent de ces quatre murs-là, de leur sous-sol, qui essaient de transitionner à la vie ordinaire, ce qu'on pourrait dire. Il y a des temps de transition, mais combien savent que tu peux être en dehors de quatre murs, mais vivre encore entre quatre murs. Tu peux vivre une vie simplement, et souvent, lorsque tu écoutes des témoignages de personnes comme ça qui ont vécu des choses, c'est des choses qu'ils ont vécues, que c'est atroce, mais qui vivent encore dans ces quatre murs-là, qui n'ont pas pu expérimenter la liberté. Et je prie ce matin que parfois, même en tant qu'enfant de Dieu, on peut être dans une bonne assemblée, on peut être entre frères et sœurs, mais vraiment à l'intérieur, on est encore dans ces quatre murs-là. Eux, sur 400 ans, des murs en Égypte, que Pharaon, c'était un roi qui était puissant, qui pour eux, c'est impensable. C'est des dizaines de générations, si on prend une génération qui a 40 ans environ, c'est tu prends 10 générations, le grand-père de mon grand-père, de mon grand-père, de mon grand-père, tu sais, il était juste comme ça, il était pris avec ça, il était pris dans ces quatre murs-là lui aussi. Et parfois, même dans nos vies, on dit la même chose. Je viens d'une famille que peut-être mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, parfois, qui sont après avec des addictions. Comme ils savent, les addictions peuvent être des murs, souvent, qu'on frappe et qu'on lutte avec. Et des fois, on traîne ça avec nous autres, des attitudes, des façons de penser, des secrets de famille, même, parfois, qu'on traîne au travers des générations, qu'on n'ose pas trop en parler et tout ça. Mais c'est des murs qui sont là, que le Seigneur veut libérer. De père en fils, depuis des générations, il voyait les effets d'être esclave, c'est une oppression constante, jour et nuit. Pendant 400 ans, ils sont sous une oppression constante. Et là, pour la première fois en 400 ans, imaginez ça, pour la première fois en 400 ans, c'est dur à penser 400 ans. Déjà, on dit que quelqu'un a 80 ans, on dit, ah, man, il avance en âge, il est pas mal. 80, hey, il a 100 ans, hey, lui, il est vieux, elle est vieille, man, c'est vraiment, tu sais qu'il est pas mal à la limite, là, il est sur le bord, là, tu sais. Mais imagine 400 ans, que c'est quasiment c'est dur de penser ça dans nos pensées, comment long ça peut être. Et là, pour la première fois en 400 ans, une lueur d'espoir s'élève alors qu'il commence à entendre parler d'un certain Moïse, que Dieu lui a parlé. Dieu a parlé à Moïse pendant 400 ans, c'est comme si Dieu n'est pas là, Dieu, ils sont en esclavage, et ils sont sous l'emprise, ils sont sous les quatre murs de l'Égypte, sont-ils sur le point d'être délivrés de une ou de plusieurs grandes emprises démoniaques. L'Égypte, c'est pas juste qu'ils sont en Égypte, c'était une emprise démoniaque. Combien savent que Satan était à l'œuvre à cette époque-là? Que Satan était vraiment à l'œuvre à cette époque-là? Que Satan et ses démons, ses principautés et tout ça, la même chose qui est à l'œuvre aujourd'hui, qui veut garder les gens entre quatre murs. Il était à l'œuvre à cette époque-là pour utiliser un pharaon, un roi, ce qu'on pourrait dire simplement, qui était en charge, qui pourrait garder un peuple, une personne gardait un peuple sous esclavage 400 ans. Wow, tu parles de puissance démoniaque, là. Vraiment, sous ces murs-là, les murs de captivité, par contre, étaient sur le point de rompre. Alors qu'ils se trouvaient un jour même, alors qu'ils entendaient, probablement, c'était comme des rumeurs, probablement on a entendu dire. Jusqu'à temps qu'un jour que ça se concrétise, que c'était plus qu'on a entendu dire, c'est vraiment vrai. Maintenant, le libérateur était là parmi eux, puis il dit, let go, laisse mon peuple aller simplement. Et là, les choses commençaient à se concrétiser. Ils voyaient des choses se passer. Mais 400 ans, c'est long. Et même parfois, lorsque tu as le message d'une bonne nouvelle qui est réelle, qui est vraie, mais lorsque tu es tellement longtemps en captivité, ce message-là semble flou. Ce message-là semble pas vraiment si clair, c'est ombragé, parce qu'à l'intérieur, tu vis pas simplement cette liberté. Et lorsque quelqu'un vient parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve, qui libère, parfois ça peut sembler comme un message étrange, un message un peu loin, distant de toi, alors que tu... Et parce que nécessairement, tu l'as pas encore vécu, ou tu l'as vécu, mais c'est pas comme simplement que tu vois dans la parole et tout ça. Satan était sur le point de perdre du territoire. Il était sur le point de perdre, les murs de captivité étaient sur le point de rompre, même alors qu'ils sont trouvés devant la mer Rouge. Alors que le peuple était sur le point de sortir de l'Égypte, ils se retrouvent devant la mer Rouge. Pour la première fois en 400 ans, des murailles spirituelles étaient sur le point de tomber afin que le peuple entier sorte de l'Égypte et passe à travers la mer Rouge. Cette journée-là, une emprise et une oppression démoniaque fut brisée. Wow! Cette journée-là, une emprise et une oppression démoniaque fut brisée. Des murailles spirituelles furent brisées et s'écroulèrent. Qu'on puisse... Il y a des murailles qui doivent tomber si je veux aller plus loin. Lorsque Moïse et Aaron se tenaient devant Pharaon et que son bâton se changea en serpent et envala les serpents des magiciens, il démontra clairement la supériorité et la puissance de Dieu face à l'ennemi. C'était un engagement de puissance envers les forces des ténèbres et envers les forces de Dieu. C'était le diable contre Dieu. Et combien savent que notre Dieu est toujours victorieux. Alléluia. Même si parfois que les serpents de l'ennemi qui viennent rôder autour de nous autres, sachons qu'on a un Dieu qui est puissant, qui est capable d'envaler par une bouchée tous ces serpents-là dans un moment. Pouf! C'est la grandeur de notre Dieu, simplement. Parfois, on vit des épreuves, des choses comme ça, puis il semble tout ce qu'on voit, c'est les serpents. Mais sache simplement qu'il peut y avoir un jour dans ta vie, simplement, que lorsque Dieu vient, par une bouchée, il envale tout ça. Fouf. Un jour, 400 ans soudainement, qui est de libération, Voyez-vous, les 10 plaies d'Égypte étaient une démonstration de la puissance de Dieu contre les dieux de l'Égypte. C'était une démonstration. La première plaie, c'est transformer l'eau en sang, révélait l'impuissance de Noum, le gardien du fleuve, de Hapi, l'esprit du Nil, et d'Osiris, dont le sang étant le Nil. En d'autres mots, Dieu démontra sa puissance sous ces dieux-là. Le deuxième fléau, les grenouilles, révéla l'impuissance de Hapi et Ket, symbolisé par des grenouilles et lié au rite de fertilité égyptien. Dieu démontra sa puissance sous ces dieux-là. Le troisième fléau, celui des poux, révéla l'impuissance de Seb, le dieu de la terre. Dieu démontra, je suis le dieu au-dessus de Seb, le dieu de la terre. Le quatrième fléau, celui des mouches, révéla l'impuissance du Hachit. Il y a plusieurs mots, en tout cas, le dieu des mouches. Et là, c'est Dieu révéla sa puissance sur ce dieu. Le cinquième plan, la maladie du bétail, révéla l'impuissance de Ptah, Mnevis, Hathor et Amon, dieu égyptien associé aux taureaux et aux vaches. Wow! C'est tout. Les 10 plaies démontraient la supériorité de Dieu sur ces choses-là. La sixième plaie, la peste, révéla l'impuissance de Sikmet, la déesse des épidémies. Wow! La déesse des épidémies, on a vécu une moyenne. Et Dimhotep, le dieu de la guérison. Mais Dieu démontrait sa puissance au-dessus de ces dieux d'épidémie. La septième plaie, la grêle mêlée de feu, révéla l'impuissance de Nout, la déesse du ciel, d'Isis et Seth, divinité agricole égyptienne, et de Su, le dieu de l'atmosphère, du temps et du ciel. Wow. La huitième plaie, la nuée des sauterelles, révéla l'impuissance de Serepia, la divinité qui devait protéger l'Égypte des sauterelles. C'était une divinité qui s'en va donner et ça devait protéger l'Égypte des sauterelles. Mais non, Dieu dit non, c'est moi qui ai la vraie divinité, c'est moi qui ai le vrai Dieu. Il n'y avait aucune puissance contre le Dieu simplement qui envoyait ces plaies-là, qui permettait ces choses-là. La neuvième plaie, celle des ténèbres, révéla l'impuissance de Ré, Amon, Ré, Aton, Atum et Horus, qui étaient tous liés au soleil. Tous ces dieux-là que les Égyptiens servaient de tout leur cœur, qui sont engagés dans leur adoration, Dieu est en train de détruire ça dans un moment, hallelujah, est en train de démontrer sa supériorité sur les dieux de l'Égypte. Enfin, la dixième plaie, la mort des premiers-nés d'Égypte, révéla l'impuissance du Pharaon lui-même, adoré comme une divinité en Égypte. Entre mots, Dieu disait, ce n'est pas Pharaon qui est votre Dieu, c'est moi qui est le Dieu de toute éternité. Alléluia. Le Créateur du ciel et de la terre, c'est moi qui ai le dernier mot sur toute chose. Et il est venu contrecarrer chacun des dieux. Combien savent qu'on a encore des dieux aujourd'hui dans la génération dans laquelle on vit? Et combien savent qu'on serve encore un Jésus, un Dieu qui veut démontrer sa supériorité sur les dieux de notre génération? Alléluia. Il veut démontrer sa puissance et sa grandeur sur tout ce que les dieux qui peuvent exister dans notre génération, que ce soit le Dieu de l'argent, que ce soit le Dieu de l'amour, que ce soit les choses, Dieu t'arrête, il veut démontrer sa grandeur. Je suis le Dieu sur toutes choses. C'est moi qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À la croix, Jésus a détruit le mur qui nous séparait. À la croix, Jésus a détruit le mur qui nous séparait. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. On voit ça dans Éphésiens 2, 14. À la croix, Jésus a conquéri tous les dieux de ce monde. À la croix, Jésus a conquéri, il a renversé les murailles. Les murailles qui nous séparaient, qui nous séparaient de sa présence, le péché qui nous séparait, l'idolâtrie qui nous séparait. À la croix, une fois pour toutes, mon sauveur, ton sauveur, mon Dieu, ton Dieu, le roi des rois, c'est alors qu'il était cloué à la croix, il a renversé les dieux de l'Égypte, il a détruit, il n'a pas juste, c'est il a détruit à la croix, il a fait un spectacle public de l'ennemi. Alléluia. Et ce matin, peut-être qu'il y a des murs dans ta vie et dans ma vie. Peut-être que des murs, simplement ce matin, au travers nos assemblées, nos congrégations, parmi dans notre génération, il y a des murs qui sont là, mais il faut qu'on se rappelle que mon Dieu, c'est lui qui est puissant sur tous les autres dieux. Alléluia. Et il est capable de m'aider, il est capable de t'aider, il est capable de nous aider ensemble à ce que les murs tombent une fois pour toutes, afin qu'on puisse aller plus loin. Parce que si qu'il y a des murs, frères et sœurs, qui sont présents, qui sont là, on ne peut pas aller plus loin qu'un mur. On ne peut pas aller plus loin que le mur qu'on a laissé s'ériger dans notre cœur. Combien d'entre nous, ça nous a souvent arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé, que parfois même des conversations avec quelqu'un et soudainement on n'est pas en accord, qu'est-ce qui arrive? Un mur qui s'élève. Combien de fois on arrive, on va dans certains endroits et tout ça, et là des murs qui s'élèvent. Et lorsqu'il y a un mur, c'est dur d'être en relation, c'est dur de remettre les choses comme c'était auparavant, parce qu'il y a des murs. Un mur fait en sorte simplement qu'on ne peut pas aller plus loin que ce mur-là. Si j'ai un mur avec mon épouse Tania, simplement, dans mon relation de couple, et qu'il y a un mur qui s'élève pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas aller plus loin que ce mur-là. Je ne peux pas grandir, je ne peux pas progresser, je vais toujours être bloqué à ce mur-là. Oh, je vais essayer de peut-être le détourner, je peux essayer de sauter par-dessus le mur, mais la réalité, c'est que le mur va toujours être là. Merci Seigneur. En Jésus-Christ, j'ai la victoire. En Jésus-Christ qui donne la grâce et la paix, il donne la présence, il donne... En Jésus-Christ, les murs peuvent s'écrouler. C'est en lui seul et lui seul. C'est lui seul qui peut nous aider, chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'autre solution. Lorsqu'on vient en Jésus, une muraille spirituelle est détruite qui me séparait de Jésus. Et qui me séparait peut-être de frères, de sœurs, de personnes. Combien savent que même dans nos propres familles immédiates, parfois on peut avoir des murs. On rit souvent lorsqu'on regarde l'action de grâce simplement qu'on a au Canada, qu'on a aux États-Unis. Puis souvent, il y a bien des faces qui se font par rapport aux soupers d'action de grâce. Ils parlent et disent « Parlez pas de politique au souper d'action de grâce. » Il y a des faces qui se font bien sur ce côté-là. Je sais bien aux États-Unis. Et simplement, pour pas que il y a des points qui sont vraiment différents souvent. Et comme ça, que dans nos propres familles, des fois, on peut avoir des points, des choses, des murailles qui se sont élevées au travers des années en cause de différents points de vue. Et même parfois, même par rapport à la spiritualité, par rapport aux choses de Dieu, et même par rapport aux choses qu'on a expérimentées, et parfois on a laissé des murs. Soyons de ceux qui détruisent les murs au lieu de les ériger. Soyons de ceux qui favorisent la grâce, qui favorisent le mouvement de Dieu, la réconciliation, la restauration. Ça ne veut pas dire simplement qu'on est... Comment ça que tu peux être nécessairement pas d'accord avec certaines choses, mais que tu peux avoir une relation qui n'a pas de mur? Ça prend de la maturité chrétienne, ça prend une grâce de Dieu. Parfois, pas être d'accord avec un frère ou une sœur ou des choses. Voyez, parfois, je ne suis même pas d'accord avec moi-même. Imagine-toi donc avec quelqu'un d'autre à ce temps. Des fois, tu te poses des questions et tout ça, mais on peut qu'il ne puisse pas y avoir de mur, que les murs puissent tomber. Lorsqu'on vient à Jésus, ces murailles spirituelles-là me tombent. Maintenant, je vois le sang de Jésus m'a libéré de la puissance du péché et de son influence. Le péché a de l'influence. Le péché occasionne des murs. Je suis maintenant un enfant de Dieu. J'appartiens au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Le fait que la muraille qui me séparait de Dieu est tombée. Le fait qu'il y avait une muraille, c'était un enfant de Dieu ce matin, que tu sois dans ce lieu ou que tu écoutes via audio, si tu es un enfant de Dieu ce matin, la muraille des murailles est tombée. La muraille qui te séparait de Jésus-Christ, qui te séparait de Dieu, est tombée. Et c'est maintenant là que tu as accès dans sa présence, tu as accès auprès du Père, tu peux avoir fellowship, tu peux avoir une intimité avec le Père. C'est donc bon, hein? On peut avoir une intimité avec notre Père. On peut avoir une relation. Je peux parler à mon Dieu. Alléluia. Mais le fait que les murailles qui me séparaient de Dieu sont tombées ne veut pas dire que je ne ferai pas face à d'autres murailles. Le fait que des murailles, qu'une muraille est tombée, la séparation qui me séparait de mon Dieu, de Jésus-Christ, en cause du péché, en cause de la nature pécheresse en moi, simplement, à la croix que ça a été, simplement, la victoire a été gagnée là-dessus, que le mur est tombé. Mais le fait que ce mur-là est tombé ne veut pas dire que je ne ferai pas face à d'autres murailles. Les Hébreux dans le désert ont dû faire face à d'autres murs. Le mur de l'Égypte avait tombé, ça avait écroulé et on avait été libérés de l'Égypte. Et je pense que c'est important, même en tant que jeune chrétien, ou ce qu'on a des jeunes chrétiens parfois qu'on conduit au Seigneur, de leur laisser savoir, et leur, par la grâce de Dieu, leur faire comprendre cela. Parce que parfois, les gens viennent à l'Évangile pensant, « Ah, ça va être tout beau, ça va être merveilleux, il n'y a plus de problème. » Mais la réalité simplement de la marche chrétienne, c'est là que les défis vont commencer à s'élever devant toi. C'est là qu'il va y avoir des combats, c'est là qu'il va y avoir des choses. Combien savent que si l'ennemi t'a déjà dans son camp, il ne t'achalera pas trop, il ne te dérangera pas trop. Mais lorsque le moment que l'ennemi te perd, que l'ennemi perd du territoire, où il s'aperçoit qu'il est en train de perdre sa grippe, le bon français, qui arrive de perdre simplement sa poignée sur toi, il va commencer à donner du trouble. Et souvent, les jeunes chrétiens, c'est ce qu'ils pensent que okay, tout va être bien. Et ils ne réalisent pas qu'ils vont avoir des murs, qu'ils vont avoir à faire face, qu'ils vont avoir des murs qui vont s'ériger. Alors que les Hébreux dans le désert, ils ont dû faire face à un mur. C'est quoi notre tendance lorsqu'on fait face à un mur? C'est une bonne question à se poser. C'est quoi notre tendance? Qu'est-ce que c'est ma tendance, moi, Stéphane Jalbert, le 3 décembre, c'est quoi ma tendance que j'ai normalement lorsque je fais face à un mur? Puis on peut tous se poser la question. Peut-être c'est juste d'être découragé, certains c'est le même qui vont le vivre. D'autres qui vont dire qu'ils vont rouspéter. On parle des vraies choses. Peut-être des fois, on va vouloir... juste assez d'imaginer que ce mur-là n'est pas là. On va se compter des blagues, dans le sens que ça n'existe vraiment pas, ce mur-là. C'est juste, c'est imaginaire. Mais c'est quoi? Ou parfois, c'est qu'on... j'aime David, l'esprit de David, le roi David dans la parole de Dieu, il dit, lorsque je vois un mur, je saute par-dessus. I climb a wall. Mais vraiment, c'est que... Il y a un épisode dans la parole de Dieu, on voit que les Hébreux voulaient retourner en arrière. Et parfois, c'est comme ça dans notre vie. Lorsque les eaux ne goûtent pas si bonnes, on parle des eaux de Mara, ils venaient juste d'expérimenter le mur, il venait de tomber, le mur de l'Égypte, 400 ans, ça venait juste de tomber. Et ça dit que le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. L'eau était amère. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque l'eau est amère? Lorsque l'eau ne goûte pas aussi douce. Oh, j'aime avoir de l'eau douce, c'est agréable. C'est bon, ça désaltère, ça rafraîchit. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque tu prends un verre d'eau et ton verre d'eau ne goûte pas comme tu pensais qu'il aurait dû goûter? Qu'est-ce que souvent lorsque je vais, je dirais pas souvent, mais à quelques reprises, lorsque je vais au service au volant de certains endroits et je demande un 7-Up. Et là, c'est le fond de la canne. C'est le fond de la bouteille. Puis là, tu décolles, puis là, tu es tout content de prendre ta sandwich, puis avec un bon 7-Up. Pour ceux qui aiment le 7-Up. Et là, c'est là, tu bois, puis là, tu as juste le fond, c'est le goût amer. Tu n'as plus le bon goût. Des fois, je m'ai vu retourner, rentrer, dire, « Je peux-tu en avoir un autre, s'il te plaît? » C'est pas bon. It's not good. Lorsque les eaux ne goûtent pas si bon que ça, lorsque les eaux sont amères, parfois, dans notre vie, lorsqu'on a un mur qu'on fait face, ou une situation qu'on n'avait pas planifier que ça allait arriver. Eux, ils voulaient retourner en arrière. Ils voulaient combien de fois que même les Hébreux, ils voulaient, les cocombes en Égypte sont à donc bons. Les oignons qu'on avait sont à pas mal mieux que ce qu'on a. Ils voulaient avoir, on avait au moins de la viande en Égypte. Et là, ils sont mis dans cette, qu'est-ce que je fais lorsque je fais face à un mur?
lorsque l'épreuve cogne à ta porte, lorsque la chose que tu pensais qu'elle n'allait jamais arriver, soudainement arrive. J'aime cette histoire qui dit simplement, c'est quoi qu'on va boire? Que boirons-nous? C'est plus bon ici, peut-être qu'on va essayer une autre place? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel, j'aime ce que l'Éternel a fait, il a montré un morceau de bois. Il dit, prends ce bois-là, puis mets-le dans l'eau. Il dit que les eaux ont redevenu douces. Prends un morceau de bois. Je ne l'enlèverai pas. Puis, mets-le dans ta situation. Jésus, souvent, comment est-ce qu'il a dit, prends ta croix et suis-moi. Je vois une belle relation, une belle image ici, simplement. Prends la croix, puis mets ça dans ta situation. Tourne-toi vers Jésus, tourne-toi vers la croix. Et tu vas voir comment est-ce que ce qui était amer, soudainement, devient doux. Que l'enfant de Dieu qui apprend à prendre sa croix et seulement à suivre Jésus malgré les épreuves, vous allez vivre des tribulations, vous allez vivre des tentations, vous allez vivre des temps difficiles, mais sache que je suis vainqueur au-dessus de tout cela. La croix, c'est miraculeux. C'est puissant. Le salut, c'est miraculeux. C'est pas de la compréhension humaine. Lorsque je prends la croix, l'apôtre Paul, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Combien savent que si qu'on essaie, que le vieil homme en nous ou la vieille femme en nous veut essayer d'avoir son chemin, elle veut essayer de faire ses affaires, combien savent qu'on fait face à des murs? Lorsqu'on laisse revivre le vieil homme en moi, oh, des fois le vieil homme veut revenir. Puis il y a juste une solution en tant qu'enfant de Dieu, et on doit le crucifier, ce vieil homme-là. On doit le mettre à la croix. Il dit non, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire, avant j'aurais réagi comme ça, mais à cette heure, c'est Jésus-Christ en moi qui est en train d'opérer sa grâce, son pardon, sa restauration. C'est Jésus-Christ en moi qui est en train de faire une œuvre que je suis capable d'aimer celui qui est moins aimable. C'est Jésus en moi qui est capable de pardonner. Mais là, mets la croix dans tes os ce matin. Peut-être que tu as des os amères que tu vis depuis des mois, parfois des années, parfois des jours, des heures. Mais je prie que les os puissent redevenir douces. Que ta marche avec le Seigneur, que ça puisse devenir doux, agréable, plaisant. Que ta marche avec le Seigneur, que ça puisse être vraiment agréable. Comme ça, que ça peut être agréable malgré les tempêtes. Tu peux être au milieu de la tempête et dire, Seigneur, how sweet of a fellowship with you. Comment doux une relation avec toi, Seigneur. Comment doux, Seigneur, et qu'il est bon et agréable. Oh, qu'il est doux simplement. Qui juste la présence. Mettre la croix. La vie chrétienne n'est pas un chemin facile. Tu vas rencontrer des murs. Il y a probablement plusieurs murs. J'aime ce que Dieu a dit à Josué à la mort de Moïse. Il dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit, fortifie-toi. Là, je mets ça dans ma version parce que tu vas faire face à des murs. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que tu vas faire face à des murs. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il dit encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Pourquoi? Parce que tu vas faire face à des murs. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'élève point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage.
parce que tu vas rencontrer des murs. Ne t'effraie point. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer des murs. Et ne t'épouvante point. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer des murs. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Les murailles, frères et sœurs, tombent par la foi en Jésus. Les murailles tombent. Ah, ben ça a l'air, tu mets ça tellement simplistique ce matin. Tu veux dire que les murailles, tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu, les blocages dans ma vie, les choses que je fais face, tu dis que les murailles tombent en mettant ma foi en Jésus. Hey, ça fait plusieurs années que je suis chrétien, là. Puis il me semble que j'ai mis ma foi en Jésus, puis les sourdines de murailles, elles sont dures. Mais Hébreux 11, 30 nous dit, et lorsqu'on pense de murailles, et je pense qu'on dans la parole de Dieu, il y a une muraille qui ressort des murailles lorsqu'on pense à Jéricho. Et Hébreux 11, 30 nous dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. La Bible nous dit que sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Je vais te montrer que je suis capable de faire tomber mes murs. Combien savent, avec une attitude comme ça, tu viens juste de fesser un mur? Oh, ouch! Je ne veux pas être dans ces souliers, puis je ne veux pas, ça n'aide moi à ne pas me mettre dans ces souliers-là, en tout cas. Ah ben, je vais te montrer que je suis capable, moi, je vais y faire tomber les murs. OK. Tu vas t'apercevoir que... À un moment donné, il y a un mur que tu ne peux pas faire tomber. Puis, à un moment donné, c'est comme, il faut que tu le laisses aller. La foi, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Hébreux 11, 30. Si tu fais face à des murailles ce matin, puis on va regarder quelques exemples, c'est de même que je vais terminer le message ce matin. Si tu fais face à des murailles ce matin, voici quelques exemples pour t'aider. Parce que parfois, on ne sait pas comment faire. Qu'est-ce que je fais devant une muraille? Mais je pense qu'une des belles exemples, c'est l'histoire de Jéricho, Josué devant les murs de Jéricho. On parle ce matin de, il y a des murailles qui doivent tomber si je veux aller plus loin. Alors, pas juste que des murailles qui doivent tomber si je veux être libéré de la vie de péché, d'avoir une vie en Jésus-Christ. Et on expérimente cette vie-là lorsqu'on devient un enfant de Dieu. Mais maintenant, on doit aller plus loin, de gloire en gloire. On doit progresser, en entendant à l'image de Jésus. On doit persévérer, ma sœur, face à Sonia. On doit persévérer. On doit continuer, comme qu'on a entendu ce matin. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait face à ces murailles, que ce soit dans nos attitudes, notre santé? Des nouvelles qu'on entend, des choses qui nous attristent, des choses qu'on vit. J'aime Jéricho parce qu'ils ont entré dans leur terre promise malgré la muraille. Mais il y a des choses qu'ils ont faites qu'on peut apprendre, je crois, dans Josué 6:3, c'est-à-dire, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche, 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Je pense qu'il y a une recette à quelque part là-dedans qu'on peut aller rechercher. Comment faire face à une muraille que je peux avoir dans ma vie? Une des choses que je pourrais regarder, que je vois, c'est qu'il devait marcher. Tu dois être en mouvement. Si tu as une muraille dans ta vie ce matin, ou une muraille à un moment donné que tu vas faire face, et il va en avoir. Si tu es chrétien plus qu'une journée, là, tu sais qu'il va y avoir des murailles. Et il devait marcher, il devait être en marche, il doit être en mouvement.
Tu dois garder le mouvement. Tu dois garder un mouvement. C'est qu'une situation qui arrive dans ta vie, garde le mouvement, frère et sœur. Psaume 89, 16, il dit, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Il marche. Psaume 110, 7, dit, « Il boit au torrent pendant la marche. » C'est pourquoi il relève la tête. Pendant la marche, il boit au torrent. Il boit en marchant, c'est pas mal. Mais c'est intéressant que lorsque tu lis la parole de Dieu, ça nous parle que le peuple hébreu marchait dans le désert, puis le rocher les suivait. Et ce rocher-là est reconnu comme Jésus-Christ. Il buvait dans la marche. Il buvait à ce rocher-là dans leur marche. Parce que le rocher les suivait. Le rocher était là avec eux. Psaume 138, 16 nous dit, « Quand je marche au milieu de la détresse, » on parle d'un mur, « tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. » Garde la marche, continue de marcher. Proverbe 6, 20 nous parle peut-être des jeunes hommes, des jeunes filles. Il dit, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Comment ils savent que c'est sage? On sauve bien des problèmes. Gros des problèmes, des fois, que j'ai pu avoir lorsque je n'ai pas écouté mamie. On voit des fois une génération, tu ne diras pas quoi faire. Non. La sagesse dit, prends garde à ce que tu écoutes. Porte attention. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. On parle de, lorsque tu fais face à un mur, marche, continue, marche. Reste en mouvement. Ils te garderont sur ta couche et te parleront à ton éveil. Ésaïe 50, 10, « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Si quelqu'un marche dans l'obscurité, je n'irai pas plus loin, mais quelqu'un qui marche dans l'obscurité, il marche, il tâtonne, il voit. La parole de Dieu nous dit simplement, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. C'est pas clair, il voit, la direction n'est pas si claire, c'est flou, c'est... Il marche dans cette situation. Si tu es dans l'obscurité, continue de marcher, il dit qu'il est en marchant, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Au paralytique, Jésus a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Pierre dit simplement un jour, il dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Je te dis ce matin, c'est qu'une muraille qui est là, marche. Continue à marcher. Jean 12, 35 dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Enfin, ce matin, c'est qu'il y a des murailles qui sont là. Et ce matin, dans quelques instants, on va prendre la communion ensemble. Dans l'attitude, Seigneur, fais tomber des murailles dans ma vie. Fais tomber des murailles au milieu de nous, Seigneur. Et mais ce qu'il y a des murailles qui sont là, c'est que garder le mouvement, continuer à marcher. Continuer à marcher dans les choses de Dieu. Ne te retire point des choses de Dieu. Ne te retire point de l'Assemblée des saints. Ne te retire point simplement des rencontres, simplement où le peuple de Dieu sont là. Une autre chose qui peut nous aider si on fait face à une muraille, c'est porte attention au temps de Dieu. Porte attention au temps de Dieu. Le timing de Dieu est important dans nos vies. C'est-à-dire que tu vas faire ça pendant tous les jours, pendant 6 jours, et le 7e jour, il y a des jours qui sont là. Porte attention au timing de Dieu dans ta vie. Le timing de Dieu est vraiment important. Le kairos, le temps opportun de Dieu. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit quelque chose, c'est important qu'on à ce moment-là, qu'on réponde à ce qu'il nous dit. Parce que c'est un timing divin. C'est un timing qui, probablement, qui se ne reproduira pas. Combien savent qu'on peut manquer des bénédictions? Si on ne porte pas attention au timing de Dieu. Et la parole de Dieu est remplie de ça. Et dire, OK, vous allez faire ça pendant 6 jours. Ce n'est pas pendant 30 jours, pendant 40 jours, ce n'est pas pendant 2 jours. Porte attention, OK, pendant cette période de temps. Je t'appelle peut-être dans un temps de prière, je t'appelle simplement à t'approcher. Réponds à ça. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Qui veut dire simplement, il faut que je porte attention au timing de Dieu. Aujourd'hui, si je l'entends, il faut simplement que je réponde à lui. Combien savent que tu peux entendre un message sur, disons, exemple, sur la guérison, puis il peut y avoir une onction de Dieu sur le service, sur la réunion, la présence de Dieu qui est là, tu dis, ah ben, je vais attendre plus tard pour répondre. Combien savent, c'est un gros no-no. Si tu veux manquer la bénédiction de Dieu dans ta vie, c'est ça la recette. Combien de fois que j'ai vu dans des rencontres simplement ou des réunions, il y avait des temps de mouvement de Dieu qui agissaient incroyables et des fois il y avait une attitude de cœur au travers les années, les différents endroits que j'ai été, et une attitude de cœur de dire, ah, c'est pas pour moi. Mais une chose que j'ai appris simplement, que j'ai vu, les gens qui répondent, qui sont attentifs au mouvement de Dieu, ce que Dieu parle à ton cœur, c'est important de répondre à ce moment-là, puis oublie ce qui est à gauche ou à ta droite. Si l'Esprit de Dieu t'a convaincu pour quelque chose, réponds à ce moment-là. Psaume 90, 12 nous dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Aide-nous à porter attention à nos jours. À nous, à porter attention, Seigneur. Porter attention, que je ne vis pas ma vie juste comme ça. Non, mais à tous les jours, simplement, que je puisse porter une attention à lui. Une autre clé, peut-être, pour nous aider, ce qu'on fait face à un mur, c'est porter attention à la manière que Dieu fait les choses. Porter attention à la manière que Dieu fait les choses. Voilà l'importance de prendre du temps dans la parole de Dieu. Voilà l'importance de sonder les Écritures, écouter, prier. Voilà, parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es en train de porter attention à comment est-ce que Dieu fait les choses. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Comment est-ce que Dieu, simplement, les choses qu'il veut faire? Comment est-ce qu'on vient à lui? Comment est-ce qu'on ne s'approche pas de Dieu comme qu'on veut n'importe comment? La parole de Dieu nous montre. Il y avait un pattern, simplement. Même dans l'Ancien Testament, alors qu'ils s'approchaient de Dieu, il fallait qu'il y avait toute une cérémonie, comment s'approcher, comment est-ce qu'ils rentraient dans le tabernacle, comment est-ce qu'ils rentraient dans le lieu saint. Il y avait toute une cérémonie, tout ça. C'est pas genre, OK, aujourd'hui, je me lève puis je rentre. Non. Et dans la présence de Dieu, c'est la même chose. Il faut porter attention. Même lorsque je viens à l'église, lorsqu'on vient dans des temps de louange, il faut porter attention à la manière que Dieu fait les choses. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Autant moi que toi, autant que nous ensemble, on doit porter attention à ce qu'il veut faire. 7 sacrificateurs portèrent devant l'arche, 7 trompettes retentissant. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Sacrificateurs sonneront de la trompette et sonneront de la corne retentissant. Quand vous entendrez le son de la trompette, voyez-vous, il y a des choses qu'il faut porter attention. Ah ben moi, je vais y aller avec ma guitare. Combien savent qu'il vient de briser l'harmonie? Ils disent, non, c'est... La guitare, ça ne sera pas une autre fois. Voyez-vous, il faut porter attention. Fais certain que l'arche de Dieu est là. Porte attention. Fais certain que l'arche de la présence de Dieu, l'arche de Dieu doit être là avec toi. Ne fais pas de mouvement sans l'arche de Dieu. La présence de Dieu représente l'arche, ou l'arche représente la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Sois attentif à la présence de Dieu. Moïse dit un jour, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Il recherchait, il voulait la présence. Exode 33, 14. Et je finis avec ce dernier point ce matin. Si qu'il y a des murailles qui sont devant toi ce matin, pas simplement que tu dois marcher, rester en mouvement dans les choses de Dieu, que tu dois porter attention au timing de Dieu, tu dois porter attention à la manière que Dieu fait des choses, mais aussi, c'est important de participer avec ton cri de cœur retentissant. C'est important ce que des murailles dans le peuple de Dieu, des murailles dans nos vies, c'est important de participer avec ton cri de cœur retentissant. Il dit, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera. Il dit, tout le peuple, tout ça veut dire, c'est tout. C'est toute la gang, c'est tout le monde. Pas juste un, pas juste deux, pas juste lui, pas juste les quelqu'un qui est dans les nuages, puis l'autre qui n'est pas dans les nuages. Lui, il est bien spirituel, puis il n'est pas bien spirituel. C'est tout le monde. Lui qui est dans la victoire, comme lui qui n'est pas dans la victoire. Lui qui a des temps, que ça va bien, que lui qui a des temps, qui a des temps difficiles. Il dit que tout le monde, ne soyons pas des spectateurs, mais des participants. Tout le peuple ensemble. Voilà une des grandes clés pour des églises pour qu'ils vont progresser de l'avant. Une des grandes clés pour que les familles progressent de l'avant. Une des grandes clés pour peut-être une communauté chrétienne ou des églises pour qu'ils avancent de l'avant, c'est l'importance de simplement ensemble, de participer. Participer à ce que Dieu fait au milieu de la vie de l'Église. Avec un petit « e » et avec un gros « e ». Participer ensemble dans la vie de l'Église locale, et aussi, on voit ça dans la parole de Dieu, l'Église locale, on voit aussi l'Église de Christ, de Jésus-Christ, de ce que le Seigneur fait. Il y a des murailles parfois dans nos vies, et parfois au milieu de l'Église de Jésus-Christ, avec un petit « e », puis un gros « e », à cause que chacun veut fonctionner, chacun pour soi. Amen. C'est vrai. Mais Jéricho a tombé parce qu'ils ont été obéissants à simplement à vouloir être ensemble. Et simplement de travailler à reconnaître ce point-là de l'importance simplement de participer ensemble avec leur cri de cœur vers le Seigneur. C'est important, participons ensemble à la vie de l'Esprit et à la vie de Dieu. Écoutez bien, à la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, d'un même cri, d'un même cœur. Ils cherchaient le Seigneur ensemble. Acte 2:1 nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il y a des murailles qui tombent, et je dirais, il y a des murailles qui ne tomberont jamais jusqu'à temps que le peuple de Dieu vienne ensemble. Pour ça, ce matin, Seigneur, viens faire tomber des murailles dans mon cœur, dans ma vie. Et il y a des grandes bénédictions qui viennent lorsque le peuple de Dieu vient ensemble. Il y a des murailles qui tombent lorsque le peuple de Dieu est ensemble. Les murs ont tombé à Jéricho car ils ont suivi les instructions de Dieu. Il y a des murs spirituels qui ont tombé à la Pentecôte et ont expérimenté un mouvement de Dieu. À la Pentecôte, on parle souvent le baptême du Saint-Esprit, on parle souvent l'effusion du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, on parle de ça et on se réjouit de ça et on a besoin de ça, mais voyez-vous, ils étaient ensemble. Il y a des bienfaits du ciel qui va venir dans nos vies, dans une église, dans une congrégation, dans un peuple de Dieu, lorsqu'on marche ensemble. Et si on ne marche pas ensemble, il va toujours avoir un mur qui est là. On ne pourra pas aller plus loin. Et tout à l'heure, on a vu, lorsqu'il y a un mur, on ne peut pas aller plus loin. Mais ce matin, du Seigneur, aide-moi à progresser, à aller plus loin dans ma marche. Et cela affecte notre marche personnelle et affecte notre marche aussi en tant que peuple de Dieu. Il y a même des murailles, même dans nos régions, même des murailles de racistes qui doivent tomber. Parfois, j'ai entendu au travers même de différentes conversations, « Ah, ces gens qui viennent de d'autres pays et tout ça, ils viennent prendre nos places, ils viennent prendre nos jobs. » Et souvent, la racine de cela, on peut choisir de dire qu'on va être aveugle à ça ou regarder même au travers, ou regarder, ça se peut-tu qu'il y ait des problèmes même dans notre communauté? Et la réalité est, oui, il y a vraiment des problèmes sérieux, même par rapport à des murailles qui sont là, En tant que culture, en tant que peuple, et des murailles qui sont là simplement, de racisme qui existent. Et combien de. Je me souviens un jour, j'étais à Atlanta, à l'église de ma belle-maman, où elle allait, et une grande église, et le pasteur, justement, il y avait une réunion, une rencontre là-dessus. Il était sur le stage. Lui, c'était un homme blanc, il y avait un homme noir qui était là, et le pasteur commençait à laver les pieds. Wow! Il dit, Seigneur, ça va plus loin que ça, mais juste, il y avait il démontrait, Seigneur, il y a des murailles, il faut qu'ils tombent. Comme ils savent que l'apôtre Pierre avait des murailles, même par rapport dans ce domaine-là. Parce que pour lui, c'était que le salut, tout ça, c'était juste pour les Juifs. C'était pas pour les non-Juifs. C'était pas pour les gentils. Et le Seigneur a dû lui donner une révélation afin que la muraille tombe dans son cœur. Et alors qu'il était sur le bâtiment sur le toit d'un bâtiment, alors qu'il attendait, le Seigneur a donné une révélation d'une nappe qui descendait du ciel. Et là, il y avait différents animaux qui sont là, des animaux impurs. Et le Seigneur a dit, Pierre, mange. Et là, Pierre a dit, comment puis-je manger ce qui est impur? Et là, le Seigneur, il a dit, en d'autres mots, il a dit, qu'est-ce que t'es, en d'autres mots, pour déclarer ce qui est impur, ce que j'ai déclaré pur, moi? Et c'est comme il y a une révélation, la lumière s'est allumée tout d'un coup. C'est comme, il y a des murailles qui ont tombé, qu'il a compris qu'à la croix, que maintenant, que juif et gentil faisaient un. Qu'à la croix, simplement, que c'était pas un peuple ici, un peuple là, c'était pas un frère ici qui vient d'une autre culture, mais à la croix qu'on fait un ensemble, qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, mais c'est un corps qui était racheté en Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ, alléluia. C'est pas la couleur, c'est pas d'où ce qu'ils viennent, c'est pas une situation géographique, mais en Jésus, on forme un seul corps, alléluia. Et c'est la beauté de la croix ce matin. Seigneur, fais tomber des murs ce matin dans ma vie, dans ma famille, dans mon mariage, dans mes relations avec les autres. Seigneur, fais tomber des murs même dans mon église ce matin, avec un petit E et avec un grand E. J'aimerais peut-être mon frère Robert juste venir jouer tout doucement ce matin. Et ce matin, on va prendre la communion ensemble, mais c'est la communion avec l'aspect du Seigneur. Que des murs puissent tomber dans ma vie. Que des murs puissent tomber dans mon cœur. Que des murs puissent tomber peut-être dans les relations qu'on a les uns envers les autres. Des murs simplement. Et pourquoi ça que je dis ça ce matin? Parce qu'on ne peut pas aller plus loin s'il y a des murs. On ne peut pas progresser s'il y a des murs. On ne peut pas expérimenter les bénédictions de Dieu s'il y a des murs. Seigneur, je dis ce matin, fais tomber les murs dans ma vie. Je reconnais, et c'est reconnaître peut-être qu'il y a des murs dans le peuple de Dieu. Ça ne serait pas être honnête de ne pas reconnaître ça. Parce que je crois qu'il y a gros de choses, gros des bénédictions de Dieu qui sont empêchées de couler en cause des murs. Mais je sais qu'à la croix, et c'est là qu'on doit prendre un morceau de bois et le mettre dans les eaux, amères parfois. C'est là que doit dire que Seigneur, je veux porter ma croix. Je veux, et de telle sorte à ce que, Seigneur, qu'est-ce que sont tes plans pour ma vie? Je veux l'accepter, Seigneur. Je veux être de celui qui marche ensemble avec la présence de Dieu. Et je veux être de celui qui va avoir un même cri de cœur ensemble en tant que peuple de Dieu. Seigneur, que les murs tombent dans mes pensées, que les murs tombent dans mon cœur, parce qu'on veut aller plus loin. Voyez-vous simplement, le peuple de Dieu dans toutes les générations, ils ont tous eu à faire face à des murs. Même lorsque des mouvements de Dieu, des endroits qui ont des grands mouvements de Dieu, que le Seigneur agit, des repentances, des communautés qui sont transformées. Et souvent, ces mouvements de Dieu arrêtent en cause que des murs. Ah, des familles qui ne se parlent plus en cause que des murs. Ah, des ambiances qui sont froides en cause que des murs. Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi. Et si tout va bien ce matin, je dis gloire à Dieu. Mais je sais la réalité qu'un jour ou l'autre, chacun d'entre nous, on va faire face à des murs. Et c'est dans ces moments-là qu'on doit avoir la grâce, on doit avoir l'humilité de cœur du Seigneur. Qu'il ne puisse pas avoir de murs dans mon cœur. Qu'il ne puisse pas avoir de murs d'amertume, qu'il ne puisse pas avoir de murs de ressentiment. Ou même des murs parce que je vois la chose différemment que du frère et de la sœur. Et combien savent que parfois, même dans les bonnes choses, même dans les bonnes discussions, même des fois, dans les discussions de la parole de Dieu, des sujets qu'on va regarder et dire, « Ah ben moi, je ne vois pas ça comme toi, tu le vois. » Souvent, on a des discussions, même en tant qu'enfant de Dieu, comme ça, que moi, « Ah non, c'est pas, t'es pas dans le bon chemin. » Puis des fois, combien ça que même là, on peut s'élever des murs. Même l'apôtre Pierre, j'aime l'attitude de l'apôtre Pierre vis-à-vis de l'apôtre Paul. Il dit, Paul enseigne des choses difficiles. Des choses qu'il ne comprenait pas. Des choses que même que l'apôtre Paul, des révélations qu'il avait eues, que l'apôtre Pierre n'avait pas eues. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait simplement? Il n'a pas dit, il n'a pas laissé le mur. Il a juste dit, en d'autres mots, il reconnaissait que Paul voyait des choses que lui, peut-être qu'il ne voyait pas. Et qui sait, peut-être que ton frère ou ta soeur, peut-être qu'il a une compréhension de quelque chose que peut-être que peut-être c'est lui qui est dans le bon chemin. Ou peut-être c'est toi qui es dans le bon chemin. Mais laissons pas les murs s'élever ce matin. Qu'on puisse s'élever ensemble. Qu'on puisse se lever dans la présence du Seigneur. Mais Seigneur, fais tomber des murs. Et on va prendre la communion dans cet aspect de cœur-là ce matin ensemble. La communion, c'est pour les enfants de Dieu. C'est te donner ton cœur à Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu, tu peux prendre la communion. Le fait que tu as des temps difficiles ce matin, ou même que peut-être que tu es tombé, ça ne veut pas dire que de t'empêcher de prendre la communion. Je veux que tu comprennes bien ça. La communion, c'est pour ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et si dans ta marche, par contre, tu reconnais que tu as péché, repends-toi. Je te demande, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi, je te demande pardon, Seigneur. Et tu peux prendre la communion ce matin. Mais dans ton cœur, que ton cœur puisse être attendri. Seigneur, je te prie ce matin. Si tu es dans ce lieu ce matin, et peut-être que tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, et tu dis, Seigneur, je te demande de venir dans ma vie. Si le désir de ton cœur, juste prie avec nous. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je reconnais que tu as donné ta vie, Seigneur, pour moi. Et Seigneur, ce matin, je te demande de me laver de mes péchés. Je te demande de me pardonner. Je te demande, Seigneur, de me changer. Fais de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Un engagement envers toi. Seigneur, prends toute ma vie, Seigneur. Si c'est le désir de ton cœur, ce matin, que tu n'es pas un enfant de Dieu, dis, Seigneur, entre dans mon cœur. Prends toute la place. Pardonne-moi mes péchés. Viens dans ma vie. Transforme-moi. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Que ça puisse être le début d'une marche avec toi, Seigneur. Et Seigneur, je veux entrer dans cette marche avec toi. Et La Bible nous dit simplement pour celui qui prie ainsi, qui demande à Jésus, qui s'abandonne à Jésus-Christ, que la Bible nous dit simplement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux prendre la communion. Ou peut-être ce matin, tu dis, ben, ces derniers temps, Seigneur, j'ai besoin que tu laves-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne. Seigneur, je reviens à la maison, je reviens à ton cœur, je reviens à toi. Viens me nettoyer, viens me laver, Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir désobéi. Je te demande pardon, Seigneur. Mais Seigneur, je veux revenir à toi. Donne-moi la force de marcher pour toi ce matin. Seigneur, étends ta main. Seigneur, il y a des murailles dans ma vie, il y a des murailles qui sont là. Et j'ai besoin que ça tombe, Seigneur. Et Seigneur, j'ai besoin que ça tombe une fois pour toutes, Seigneur. Et je veux juste demeurer en mouvement dans les choses de Dieu. Je veux simplement reconnaître le timing de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu. Reconnaître ce timing de Dieu-là. Aussi, simplement, de savoir simplement que Dieu, il est à l'œuvre dans ta situation. Et Seigneur, je te prie ce matin, étends ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Ensemble, Seigneur, on ne veut pas être des spectateurs, mais on veut être participants à ce que tu veux faire. Lorsque des choses avec l'Église, avec le corps de Christ, on veut participer, on veut faire partie d'eux, on veut faire partie du corps. Ce matin, je vais inviter chacun d'entre vous ce matin. On va venir ensemble, on va prendre la communion à l'autel ce matin. Si tu dois t'asseoir, je vais te demander, on va garder les...